Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis toujours en compagnie de mes deux collaboratrices. Salut Margaïde.
Hello, je sens qu'on va bien se marrer aujourd'hui.
Salut Elsa.
Hello.
Dans ce 20e épisode, nous allons parler de rigolade, de marade, de fendage de gueule, de barre de rire. Bref, on va parler de Warriors et d'humour. Elles ont trouvé la parade cinglante à la blague pourrie du collègue sexiste. Elles montent sur scène envers et contre tout. Elles poussent l'ironie à son paroxysme. Elles font de leur humour une arme et font des vannes en forme de gifle. Bref, nos warriors vont vous faire marrer, mais pas que. Elles nous prouvent qu'on peut rire de tout sans faire n'importe quoi. Elles nous réconcilient avec notre propre répartie et parfois manque d'inspi. Elles nous désinhibent. Elles vont nous faire du bien à toutes et tous. Et pour commencer, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un très court extrait du spectacle de Caroline Vigneault. Elle était avocate, elle est devenue humoriste et elle décortique les lois avec un regard féministe.
Et ton mari, il a le droit de lire ton courrier jusqu'en 1975. Il a quand même fallu une loi en 75 pour leur faire comprendre que quand c'est pas ton nom sur l'enveloppe, c'est pas pour toi.
C'est pas pour toi. Oh, t'as compris ?
J'adore le concept.
Comme quoi, tout est quand même très compliqué. Voilà. Donc, de plus en plus de femmes occupent les scènes d'humour, mais elles prennent aussi de plus en plus la parole. Elles s'essaient dans le domaine et y compris dans les conversations. Les femmes s'essaient de plus en plus à ce registre. Et du coup, Marga, tu vas nous présenter notre première warrior.
Oui, voilà, c'est Stéren. Et c'est vrai que l'humour, les femmes prennent de plus en plus leur place. Mais surtout, le problème, c'est que dans le sexisme, un des principaux ressorts de cette oppression, c'est quand même l'humour. Parce qu'on connaît les classiques blagues sur les femmes au volant ou tous ces petits livres qu'on trouve du style les femmes qui savent pas lire les cartes routières ou les cartes postales sexistes qu'on trouve dans les stations balnéaires ou les stations de ski juste pour rire.
Bien sûr. Moi, en tant que blonde, j'en ai plein des blagues sur mon dos.
Voilà, super. J'imagine que tu adores. Et c'est difficile de déconstruire ça, même quand on est une femme, puisque c'est omniprésent. Par exemple, mais t'es blonde ou quoi ? Ah ouais, mais non, je suis blonde. Moi, j'ai entendu
des tas de nanas. Ça m'est arrivé de le dire.
Voilà, donc voilà. Donc apprendre à rire différemment, c'est pas forcément toujours facile. Et c'est ce que Stéren, qui est ingénieur, a appris à faire.
J'ai appris beaucoup de choses en école d'ingénieur. Et j'ai aussi et surtout appris beaucoup de choses dans l'association LGBT de mon école. J'ai appris à déconstruire les idées que j'avais et j'ai appris beaucoup de vocabulaire. Alors, j'ai surtout arrêté de faire des blagues de merde qui étaient sexistes et je ne savais pas qu'elles étaient sexistes ou qui étaient homophobes et je ne savais pas qu'elles étaient homophobes. J'ai arrêté ces choses-là, c'est assez compliqué. Et il y a quelque chose que j'ai commencé à faire. C'est que j'ai remplacé couille par gonade. C'est pas vraiment des blagues, c'est juste une habitude à prendre. Et en fait, ça fait beaucoup rire les gens. Donc, je m'en bats les couilles, c'est devenu je m'en bats les gonades. Ça, j'utilise beaucoup maintenant. Et ça fait un peu son chemin. Il y a des gens qui le remarquent, il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai dû expliquer à mes parents ce qu'étaient des gonades. Ça fait des situations cocasses. Donc là, mon but, ça va être de remplacer couille dans d'autres expressions. Alors, en ce moment, la grosse mission, c'est « il y a une gonade dans le pâté ». Pour l'instant, ça me fait encore trop rire pour l'utiliser. Mais bon, tout mon entourage a commencé à s'en battre les gonades comme moi, et ça, ça fait vraiment plaisir.
Et ça veut dire quoi?
Alors, les gonades, petite leçon de biologie. En fait, c'est une glande qui sécrète les hormones sexuelles chez les hommes comme chez les femmes, en fait. Donc, du coup...
C'est universel.
Voilà.
Moi, je m'en bats les reins, mais du coup, il y a des reins dans le potage, ça marche moins bien. Il y a un rein dans le potage.
Ouais, c'est clair.
Non, et puis là, en plus, ça permet d'apprendre des choses.
Mais
en
oui,
fait.
Ça devient un cours d'anatomie, du coup.
Limite. Donc, pourquoi pas remplacer, effectivement, dans des expressions sexistes, des choses qui font sourire, réfléchir. Genre, au lieu de « t'as tes règles », on pourrait dire à un mec un peu énervé « t'as la prostate qui te démange » ou quoi. Et voilà. Et pourquoi c'est important de parler de ça, de l'humour, et pourquoi c'est politique et c'est pas juste drôle en fait. Parce que en fait, comme je disais, l'un des principaux moteurs du sexisme dans notre société, un des principales façons dont il se diffuse, c'est l'humour. Et c'est pas moi qui le dis, c'est une étude du Haut Commissariat à l'égalité. Je vous mettrai les références en lien de l'épisode qui est sorti en 2019. Alors le problème, il y a plein de problèmes, mais un des problèmes c'est qu'on dit que l'humour est fédérateur, ce qui semble en fait une bonne chose pour le fameux vivre ensemble à la française, sauf que le HCE dit que dans la plupart des cas, on rigole des femmes ou alors on rigole sans les femmes. Donc on fédère en fait sur le dos de la moitié de la population, ce qui est quand même problématique. On va en parler, mais la plupart des humoristes médiatisés sont surtout des hommes. Ouais. Et un des principaux ressorts de l'humour, donc, c'est le sexisme. Et pour le mettre en évidence, le HCE, ils ont en fait étudié 28 chroniques radio d'humoristes dans les matinales. Donc deux hommes, donc Nicolas Canteloup, Laurent Gérard, et une femme, Charline Van den Ecker. Donc sur
deux, c'est pas mépris.
Sur...
Ouais. Mais j'aime bien.
Oui. Donc sur 28 chroniques, il y en a 20 dont les principaux moteurs qui font rire, déclencheurs de rire, c'est le sexisme.
Wow.
Donc ça dit quand même l'ampleur.
Je suis pas
étonnée. Voilà. Et quand, par exemple, dans ces chroniques, quand on parle d'hommes, ils sont toujours présentés d'une façon virile pour mettre en avant leur masculinité. Ouais. Alors que quand on parle des femmes, c'est généralement soit parler de leur physique, soit les rabaisser, soit leur dire qu'elles sont bêtes, soit carrément les sexualiser. Donc, conséquence, ça a quand même des conséquences sur la vie réelle. C'est pas juste drôle à entendre, c'est pas juste de l'humour en fait, c'est aussi un véritable outil de domination, et parce que déjà d'une certaine façon ça crée de la connivence entre les hommes qui rigolent d'un autre groupe. On peut penser par exemple à l'affaire des boys clubs dans divers médias. Pour rappel, c'était dans certains médias des groupes de mecs, des listes mail, notamment la ligue du LOL, où en fait ils s'échangeaient des blagues sexistes sur leurs collègues entre eux, donc ça crée une espèce de communauté souterraine, tout ça en dénigrant les collègues, et voilà, donc ça a des conséquences assez directes en fait au travail pour les femmes et pour les hommes. Les femmes donc sont systématiquement dévalorisées, alors soit elles sont agressives, soit elles sont en compétition les unes entre les autres, les fameux crépages de chignon, soit elles sont incompétentes ou stupides, voire castratrices.
Ah bah oui.
Voilà, ça c'est l'image qui est véhiculée.
Bah, soit t'es stupide, soit t'es castratrice, de toute façon.
Voilà,
c'est assez binaire en général.
Voilà, donc paye tes rôles modèles pour les femmes qui écoutent.
Hyper inspirant.
Et en plus, pire que ça, parfois l'humour sexiste banalise carrément les agressions sexuelles. Alors je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo de Rémi Gaillard où il imitait des actes sexuels avec des femmes dans la rue qui n'avaient absolument
rien. Ou Bigard, il y a moins longtemps aussi, avec Bigard. L'histoire du médecin qui viole sa patiente.
C'est horrible.
Voilà.
Il me dégoûte.
Il y a également une vidéo de Norman où la blague du sketch, en fait, c'est un prof qui regarde sous la jupe de son élève.
Ah, génial.
Super drôle. Merci.
Donc évidemment, c'est pas parce que tu as regardé un sketch sexiste avec une agression dedans que tu vas passer à l'acte, mais quand même, selon une étude californienne, dont je vous mettrai le lien aussi, les personnes qui ont déjà des préjugés sexistes et qui sont exposées à ce type de blagues sont toujours renforcées dans leur jugement, en fait, et ça les conduit à penser que les comportements sexistes soient acceptables, en fait, puisqu'on en fait des blagues, donc c'est tout à fait
normal. À la télé,
normal.
À la radio, absolument partout.
Et que ça peut favoriser, dans certains cas, le passage à des actes sexistes, donc... éventuellement des injures, voire des agressions. C'est pourquoi qu'il est urgent pour nous de refuser ces blagues, en fait, déjà de le signaler quand on entend une blague sexiste, de dire en fait non, c'est pas drôle, et d'expliquer que voilà, bah en fait, là, en fait, c'est de moi que tu ris et moi, ça me blesse. Et de mettre en avant une autre façon de faire de l'humour. Et c'est super parce que c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui.
C'est Raymond DeVos, je crois, qui disait que l'humour était une affaire très sérieuse. Pour une fois, je suis assez d'accord avec, avec ce que dit ce monsieur.
C'est clair.
Elsa, du coup, tu nous présentes notre seconde warrior.
Oui, tout à fait. Alors, c'est Marine. Donc, Marine Baousson, et en fait, elle est humoriste. Donc, en tant que femme humoriste, elle se mange énormément de réflexions sexistes, grossophobes aussi. Et elle a beau être une professionnelle de l'humour, bah, ça reste une meuf normale, comme nous toutes. Hein. Et même elle, en fait, elle n'a pas toujours la bonne répartie au bon moment.
Ce que je voulais raconter, c'est qu'il y a un truc assez paradoxal dans ma vie. Moi, je suis humoriste et dans la vraie vie, j'arrive pas du tout à répondre. C'est-à-dire que c'est impossible pour moi de dire des choses alors que sur scène, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et par exemple, dans la vie, on m'a dit des trucs hyper sexistes dans le cadre de mon travail. On m'a dit, par exemple, genre, un professionnel qui devait juger mon boulot m'a dit « Oh là là, brûle ta chemise, j'ai pas du tout pu écouter ton passage. Tellement ta chemise est moche, j'ai dû me concentrer que là-dessus. » j'ai joué 30 minutes et vraiment c'était le seul retour professionnel qu'on m'a fait. On m'a aussi dit oh là là mais vous les femmes vous parlez que des mêmes choses, vous parlez de vos mecs, c'est chiant. Or moi je suis lesbienne donc je ne parle pas de mon mec en fait, donc tu n'as pas écouté vraiment mon passage. C'est des trucs comme ça et dans laquelle j'ai pas du tout de répartie. On m'a dit aussi quand j'ai perdu beaucoup de poids, on m'a dit oh là là Marine t'es presque bonne, je suis à deux doigts de te demander ton numéro. Et moi j'étais tellement choquée. Et donc en fait ce qui est drôle c'est que pour ces trucs là où j'ai pas de répartie, en général je les pas sur le moment et après j'ai des réparties rêvées et notamment pour ce truc là t'es presque bonne, je suis à deux doigts de te demander mon numéro. J'en avais parlé dans mon spectacle où j'avais dit mais t'es à deux doigts de rien du tout mon pote, il y aura jamais aucun doigt nulle part qui rentrera ici. Et bon je fais des gestes, alors je sais pas si c'est marrant à l'oral juste, mais c'est super fou de voir que j'ai pas de répartie dans la vraie vie. Alors que quand je suis sur scène, je sais pas d'où ça vient, mais je sais que quand je suis sur scène, parfois les gens y parlent et parfois ils disent des trucs et parfois. Et là, c'est drôle parce que j'ai aucun problème à dire aux gens, excuse-moi, ferme ta gueule en fait. Mais vraiment, cette phrase-là, qui est quand même un truc, mais d'une violence assez folle, j'ai aucun problème à le dire quand je suis sur scène. Parce que quand je suis sur scène, je sais que c'est moi. C'est moi qui ai le pouvoir. Et je sais que c'est hyper étrange d'utiliser ce mot de pouvoir, c'est vraiment ce truc-là. Quand je suis sur scène, je peux répondre à tout et j'aurai de la répartie pour tout. Et je n'ai aucun doute là-dessus que d'abord j'en ai le droit et ensuite je sais que j'aurai toujours le dernier mot. Et le fait de savoir ça, mais ça, ouais, ça donne un pouvoir dingue. Et ce qui est assez marrant, c'est que par exemple, une fois, je jouais à la lesbienne invisible. Et donc, c'est un spectacle que je joue. Et en fait, à un moment dans le spectacle, je dis, mais vous avez ici des bars lesbiens? Et il y a plein de meufs qui me font, non, non, non. Et vraiment, j'avais un public où il y avait beaucoup de lesbiennes. Et les meufs, elles disaient, non, non, on n'en a pas, c'est trop nul. Ouais, il y a un petit truc qui vient de s'ouvrir, mais c'est vraiment pas top. Enfin, et là, t'as un mec au premier rang qui fait, si, il y en a un. Alors, je dis vraiment, pardon. Mais pourquoi tu parles? Enfin, je lui avais dit, qu'est-ce que tu dis en fait? Et puis, si, il y a un bar lesbien. Je dis vraiment, non, tu peux pas nous mansplainer les bars lesbiens. Les meufs qui sont là, elles le savent s'il y a un bar lesbien vraiment. Ici, je dis, tais-toi, vraiment tais-toi. Et je sais que c'est pas de la répartie de dingue, j'avais pas d'humour, à part tu nous as mansplainé, ce qui a fait beaucoup rire les meufs autour, mais je me serais jamais permise dans la vraie vie de dire un mec, excuse-moi, t'es en train de m'expliquer les bars lesbiens en fait, alors que c'est le vrai truc quoi.
Ouais, moi j'adore ce témoignage, c'est vraiment super cool et effectivement la scène ça a un effet vraiment cathartique et j'ai envie de dire toutes les meufs qui ont envie de faire de l'humour, allez-y parce que effectivement ça permet de sortir de soi des trucs qu'on n'arrive pas en fait à sortir dans la vraie vie et comme elle dit le pouvoir, moi je trouve pas ça bizarre hein, qu'elle parle de pouvoir en fait, c'est clairement ça et c'est on parle d'empowerment tout le temps. C'est exactement ça, en fait. Ouais. Il y a un moment où il faut prendre le pouvoir et arrêter de s'excuser de vivre et de tout ça.
Cette position, elle te légitime, en fait.
Voilà, aussi. C'est ça.
Donc, particulièrement quand tu es quelqu'un de timide ou qui n'ose pas, là, quand tu te retrouves sur scène, c'est toi qui as la légitimité de parler. Donc, ça t'autorise.
C'est ça. Et comme elle dit, tu as le dernier mot. Puisque forcément, tu as un micro, donc tu parleras forcément plus fort que les autres.
C'est ça. Et normalement, même les mecs sont venus t'écouter, en fait.
C'est ça.
Quoique.
Oui, ouais. Potentiellement, ils ont payé pour te voir. Donc voilà, clairement, tu as un pouvoir sur eux et c'est génial qu'elles le prennent comme ça. Et après, effectivement, on n'est pas obligé de toujours avoir la meilleure répartie dans la vie. Moi, elle me rappelle aussi Marie Da Silva, qui est coach et qui disait qu'en fait, elle a écrit dans un cahier toutes les situations où elle aurait voulu réagir en fait, et ouais. où elle a pas réussi sur le moment à réagir, toutes les situations en l'occurrence de racisme qu'elle a pu vivre, et en fait c'est devenu sa méthode presque, ouais. Voilà, de réécrire l'histoire et de réécrire, ah bah là quand il s'est passé ça, voilà ce que j'aurais dû faire,
ouais.
Et c'est devenu son guide, et du coup voilà, que ce soit à travers l'humour ou pas, en fait c'est un exercice ouais, qu'on peut faire qui est vachement bien, je trouve.
Mais grave, mais quand Marine parle de ses punchlines fantasmées, mm-hmm. du fait que la bonne répartie lui vient plus tard, ce qui nous arrive à toutes à ouais, peu bah près oui. tout le temps en fait. Je trouve qu'effectivement, ça peut être un excellent exercice de les noter.
Carrément.
Parce que de toute façon, toutes les situations quasiment sont récurrentes. Donc il y aura toujours une opportunité à un moment donné de sortir la punchline que tu as bien travaillée. Comme il y en a certains, les harceleurs, clairement, tu sens qu'ils sont sortis avec leur punchline qu'ils préparent depuis des mois. On peut faire pareil, en fait, aussi pour
bah ouais,
répondre.
C'est ça.
Mais je dis, tu peux limite le faire, tu sais, genre comme le cahier d'anglais là, avec les verbes irréguliers, tu vois. Tu, ouais. tu te récites toi-même tes petites répliques là.
Il y a un compte Instagram d'ailleurs qui fait ça, les punchlinettes, qui proposent des réponses.
Oui.
Un peu
ouais.
cinglante aux injonctions sexistes.
C'est etc. vachement bien.
Bien, bah du coup, on va passer à notre troisième warrior. Je vous présente cette fois Tani. Tani, elle est humoriste également. Et si vous ne la connaissez pas déjà, je vous propose avant tout d'écouter un extrait de son spectacle. Vous comprendrez très vite à quel genre de warrior on a affaire. Dans cet extrait qui a été filmé au Field, elle parle de son coming out en tant que lesbienne. Mais avant de faire son coming out, bah, y a tous ces moments où tu fais en sorte d'esquiver la question, et notamment chez la gynéco.
Y a un autre endroit aussi où j'ai eu peur de le dire, c'est quand j'ai dû prendre rendez-vous chez une gynéco dans le 15e arrondissement. Elle avait des autocollants un peu bizarres sur son bureau. Du coup, j'ai joué au jeu de ni hétéro, ni homo. C'est un peu le ni oui, ni non des gays et des lesbiennes. Ça donnait bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours avec le même partenaire? Pas vraiment, j'ai changé. Vous prenez la pilule? Pas tout à fait, j'ai arrêté. Un autre moyen de contraception alors? Pas vraiment, j'ai arrêté la contraception. Ah, vous voulez avoir des enfants? Peut-être, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire? Quoi? Je ne comprends pas. C'est pas grave. Comment ça? Bien, vous n'avez pas de relation sexuelle? Si. Alors? Alors quoi? Alors quoi quoi? Alors quoi quoi? Ah
alors quoi 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 quoi?
Donc voilà le genre de quilombo dans lequel on peut se retrouver.
Oh là là.
Donc les présentations sont faites. Donc Tani, c'est une humoriste engagée. Personnellement, j'ai découvert son univers il y a quelques jours, mais je suis déjà complètement fan. Et en plus, bah, du coup, elle nous fait l'honneur de témoigner d'un de ses moments de gloire qui s'est déroulé lors d'une soirée en zone à haut risque.
J'ai une question qui me taraude en ce moment. Ça a toujours été aussi relou, les mecs cisgenres en boîte de nuit? Genre, qu'est-ce qui leur arrive? Il y a quelques mois, je suis allée dans un endroit qui se rapproche le plus de l'enfer sur Terre. Je suis allée dans les bars, là, vers Bastille, rue de Lappe. Tu sais, chez Hétéroland ou Macho Park, comme vous voulez. Quel enfer. Un nid à débiles, vraiment. Tu sais, le genre d'endroit où tu croises des mecs avec des chapeaux en forme de bites pour leur enterrement de vie de garçon. Tu sais, ils mettent des bites sur leur tête tellement ils aiment ça. Ils adorent, hein, vraiment. Mais attention, ils veulent pas passer pour des mecs respectables, quoi. Hein, à l'aise avec leurs désirs, qui respectent les meufs, quoi. Donc j'étais chez Macho Park, rue de Lappe, et j'étais en train de danser avec une pote, un peu collée serrée. Juste une pote, mais on dansait proche, parce que pourquoi pas? Et au mieux, on a le droit d'être lesbienne. En l'occurrence, je le suis. Mais c'était pas ma meuf, c'était juste une pote. Et donc je danse, et le mec met une main au cul à ma pote. Mais pas une main genre, oh, je me suis loupée d'arrêt, j'ai fait un détour, je me suis posée là. Non, vraiment, tu vois, une main militante dans le mauvais sens du terme. Donc forcément, je l'embrouille. Je lui dis « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que voilà, c'est comme ça que je m'embrouille avec les gens. Et le gars me dit « Ouais, ça va, j'ai pas une mie aux mains au cul, c'est une mytho, vous faites des films. » Un mec courageux de Hétéroland, quoi. Et là, le truc qu'il trouve à me dire, c'est « Et toi d'abord, t'es un mec ou une fille ?» Le mec me dit ça, déjà, je vois pas le rapport. Genre, c'est comme si t'es en train de... en plein embrouille, et le gars te dit « Attends, c'est quoi ta couleur préférée ?» On s'en fout, vraiment, on s'en fout. Mais je pense qu'il a dit ça pour plusieurs raisons. Un, pour qu'on parle d'autre chose de sa main au cul. Deux, parce qu'il a vu que je dansais proche avec une meuf, et je pense qu'il était deg. Et trois, il s'est dit, à mon avis, elle est lesbienne, donc je vais appuyer là où ça fait mal. Mais ce qui me fait rire avec les homophobes, c'est qu'ils ne comprennent rien, tu sais, vraiment. Et ils ne comprennent surtout pas qu'il n'y a aucun rapport entre mon orientation sexuelle et mon genre. Il y a tellement de gens qui pensent que si t'es lesbienne, ton rêve ultime, c'est forcément d'être un mec, je comprends pas. C'est comme si t'allais voir un vegan et que tu lui disais « Ah, t'es vegan !» Tu veux pas manger d'animaux parce que t'aimerais être un animal, c'est ça, ouais, je comprends. Mais non, pas du tout.
Mmh, il aimerait être un animal.
Non. Donc, je lui ai dit, écoute, macho boy, tu vois les véganes? Mais moi, je suis comme les véganes. Je suis qui je veux, en l'occurrence une meuf, mais je veux surtout pas te consommer, mec. Ah là là, donc voilà, les mecs cis, hétéros, de Hétéroland, mettez vos chapeaux de bite et vraiment allez loin de moi, tu vois. Tu sais, avant, la technique à l'entrée des discothèques, c'était gratuit pour les filles. Moi, maintenant, je pense qu'il faudrait me payer très cher, très très cher, pour rentrer en boîte avec des mecs hétéros, vraiment. Allez, salut.
Moi, je suis d'accord qu'on nous paye, hein, franchement.
C'est clair, c'est clair. Il y a des moments, c'est tellement insupportable. Donc voilà, Tani, bah, elle utilise le ridicule pour dénoncer des comportements. Moi, je trouve que c'est une super stratégie parce que dès que le monde aura admis que ces comportements, ils sont nuls, abjects, rétrogrades, bah, peut-être qu'on perdra quelques représentants du style et ça nous fera des vacances. Donc j'adore son sketch, je vous invite à aller regarder toutes ses vidéos d'ailleurs sur YouTube. Et si vous voulez la voir jouer, Tani, elle est tous les mardis à la Comédie des Trois Bornes à Paris. N'hésitez pas à partager ses vidéos et à la suivre sur Instagram ou Twitter, @TaniLautre, donc T-A-H-N-E-E, l'autre tout attaché.
Je suis trop contente parce qu'on découvre plein d'humoristes.
Mais
du
oui
coup.
Bah oui, c'était le but.
Trop bien.
Marga, tu nous présentes notre prochaine warrior, Lily.
Oui, Lily, on va passer à un autre moyen d'expression, la bande dessinée, parce que Lily Sohn, elle est autrice marseillaise, cocorico, aioli, comme on veut. Alors, elle est rentrée dans ce métier de façon professionnelle, on va dire, parce qu'elle dessine depuis très très longtemps, à 29 ans, dans des conditions un peu particulières. Donc, à l'époque, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, voilà, patatras. Mais elle a décidé de raconter son quotidien sur un blog BD en utilisant justement l'humour. Par exemple, dans son livre qui s'appelle « La guerre des tétons », son cancer, elle l'appelle Gunther. Et les cellules cancéreuses, elle les compare à des petits lapins qui copulent joyeusement dans son corps. Voilà, donc je la laisse expliquer comment elle utilise l'humour en fait comme une arme.
Et là aussi, le ton de l'humour, je l'ai choisi assez naturellement, mais je pense vraiment en opposition avec la dureté de ce que j'étais en train de vivre. Alors ça peut paraître bizarre, en effet, de raconter que peut-être on peut mourir, qu'on va perdre ses cheveux, de raconter le quotidien de la chimio, de raconter des trucs très difficiles sur le ton de l'humour. Mais je pense que pour moi, en tout cas, dans ce récit-là, c'était nécessaire d'en rigoler parce que ça permettait de dédramatiser et de vivre ça au quotidien de manière beaucoup plus légère. Ça a été une belle arme pour me sortir de tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, d'avoir pratiqué, on va dire, l'humour sur un sujet difficile comme ça, je continue à le faire dans mon travail au quotidien. Maintenant, je suis guérie. La maladie, c'est fini, même si je continue à travailler sur ces thématiques-là. Mais ensuite, j'ai eu envie de m'intéresser au corps de la femme et j'ai eu envie de comprendre, par exemple, comment était fait le corps d'une femme cisgenre, puisque c'était mon cas, et de comprendre la vulve, le clitoris, les menstruations, etc., comment ça fonctionnait. Je me suis rendu compte que parfois c'était encore très tabou. Et l'humour, ça permet vraiment c'est la clé de dédramatisation. Ça permet de parler à tout le monde sans que les gens se braquent et de pouvoir les emporter dans des réflexions un peu plus loin, sans les brusquer, sans faire mal. Et je pense que moi, j'adore cette technique-là. Parfois, je pense que ça peut être aussi un moyen dans des situations même dangereuses, dans la rue, dans des discussions familiales, de faire redescendre la pression et de pouvoir s'en sortir tout en apprenant à tout le monde quelque chose et en donnant des informations de manière moins frontale, on va dire. Mais je trouve qu'en fait, c'est hyper difficile de répliquer parce que des fois, déjà, il faut être éveillé et il faut arriver, je trouve, à les capter ces situations de sexisme ordinaire dans la vie de tous les jours. Et ensuite, une fois qu'on est capable de les voir, ensuite, il faut être assez fort pour les gérer. Et je trouve qu'on n'est pas tous les jours assez fort pour le faire. Et je pense que c'est aussi une question d'entraînement. Et j'essaie de m'entraîner aussi, moi, tous les jours à être capable, si j'ai envie, si je me sens assez forte. Mais il y a vraiment une question d'entraînement. Et souvent, les filles, on n'est pas assez entraînées à ça. Au salon de BD de Bruxelles, on est venu me présenter. Du coup, j'étais en train de dédicacer et on est venu me présenter une personne qui avait l'air très importante. Je n'avais aucune idée de qui c'était. Et qui commence à me dire « Oui, bonjour, vous êtes donc auteur de BD ?» Et donc, je le reprends en lui disant « Bah non, je suis autrice. » Et il était outrée un petit peu que je lui sorte ce nom qu'il n'avait jamais entendu. Et donc, je lui explique que ça existe depuis très longtemps, que, en effet, vu la tête qu'il faisait, sûrement qu'il trouvait ça moche, mais qu'il allait sûrement s'habituer. Et que de toute façon, c'était la dénomination, c'était ma dénomination, et que j'avais envie de la choisir, et que j'avais choisi celle-là. Et il avait l'air très fâché que je lui réponde de cette manière-là. Et tout le monde me regardait avec des gros yeux autour. Quand il est parti, on m'a expliquer que c'était le roi de Belgique ou le prince de Belgique, je m'en fous en tout cas, et qu'il n'était pas très agréable et que tout le monde était ravi que je l'ai remis à sa place.
Voilà, wow. Comment tu te prâches le prince de Belgique.
T'es un roi, moi je m'en bats les...
les gonades.
Je m'en bats les gonades.
Roi ou pas roi, tu m'appelles comme j'ai décidé.
Mais en plus, quand je pense que le terme autrice a existé pendant des siècles, quoi. Je crois que c'est jusqu'au 18e que ça se disait de façon très courante, quoi.
Et maintenant, c'est genre.
Gens ont l'impression que tu déformes la langue française quand tu le dis, mais ça faisait partie de la langue avant.
Ouais, voilà, c'est ça. Ou que t'es en train de sortir un tract.
C'est ça. Est-ce que tu t'es rebellé quand on l'a enlevé du dictionnaire ce mot? Je ne pense pas.
Oh là là.
Bon, en tout cas, c'est une super warrior, Lily, ouais, déjà, d'avoir traversé la maladie comme ça. En fait, ce qu'elle raconte aussi, c'est que ça a permis à d'autres femmes aussi d'en parler.
Ouais.
Et d'en parler de cette manière-là, de dédramatiser, comme elle dit, et puis d'en rire, en fait. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt un succès pour Lily, puisqu'elle a publié d'autres ouvrages que je vous recommande vraiment. On peut citer Vagin Tonic,
ouais.
voilà, où elle parle de chatte, de vulve, de clito et d'utérus. Mamas, peu de filles précises de déconstruction de l'instinct maternel. Donc voilà, que je vous les recommande. Courez chez votre libraire préféré ou à votre bibliothèque. C'est vrai que la BD d'humour reste encore très masculine, mais il y a quand même de plus en plus de femmes qui défendent des idées féministes avec humour. On peut penser à Myrion Mal ou à Pénélope Badieu. On en a beaucoup parlé, notamment lors du dernier festival d'Angoulême. Voilà. Ouais. Donc, je pense que les éditeurs commencent à se rendre compte qu'en fait, la moitié des potentiels lecteurs sont en fait des lectrices.
Il y a un marché, je crois, les gars.
Ouais. On semble découvrir qu'elles sont là, alors qu'en fait, des autrices de BD d'humour, il y en a depuis très longtemps. On pense déjà à Claire Bretéché, qui malheureusement nous a quitté le 10 février dernier, et son personnage le plus célèbre, donc vous la connaissez, voilà, une ado rebelle du nom d'Agrippine. Personnellement, j'aime aussi beaucoup Alison Bechdel. Je vous recommande vraiment de lire son recueil L'essentiel des Gouines à suivre, qui raconte les aventures d'un groupe de potes militantes du milieu queer aux États-Unis. Donc ça raconte leurs batailles quotidiennes, mais aussi les grandes luttes pour les droits LGBT, et c'est toujours très très drôle. Il y a aussi dans ce milieu-là de la BD, du dessin, on peut penser aux caricaturistes aussi, les dessinatrices dans la presse, qui est quand même un milieu où l'humour graveleux et sexiste est quand même roi. Donc celles que je vais citer là n'ont pas forcément un engagement féministe, mais ça peut valoir le coup quand même d'aller voir leur travail. Donc à Marseille, on a une dessinatrice talentueuse qui s'appelle Trax, donc vous pouvez voir les dessins dans le mensuel Le Ravi. C'est elle qui a fait notamment cette magnifique caricature de Jean-Claude Godin, le maire de Marseille, avec les dents qui tombent, et à la place des dents qui tombent, en fait, ce sont des immeubles, donc en référence au drame de la rue.
Engagée, voilà. Pour le coup.
Ouais, très très engagée, et très souvent très poétique, et vraiment très très beau. En préparant cette émission aussi, j'ai découvert le travail de Catherine Bonnet, que je ne connaissais absolument pas. Il y a un dessin qui m'a particulièrement plu. C'est un dessin de l'Assemblée nationale avec les colonnes, vues de l'extérieur, mais les colonnes sont remplacées par des bits.
Ah bah voilà. C'est exactement ça.
C'est exactement ça. J'ai trouvé ça très chouette. Et à l'international, on peut aussi citer Nadia Riari, aka Willis de Tunis, qui en fait, à travers un personnage de chat, chronique un petit peu l'actualité politique tunisienne. Voilà. Et il y en a plein d'autres.
Merci pour ces recos. Et d'ailleurs, il y a le collectif des dessinatrices de bande dessinée, il me semble, j'ai peur d'écorcher leur nom, qui milite parce qu'il y a très peu de femmes nominées, notamment au prix d'Angoulême, et qui du coup font un formidable travail. C'est notamment grâce à elles qu'il y a quelques années, Riyad Satouf a refusé sa nomination en soutien justement aux femmes qui auraient dû être nominées. Bien, Elsa, tu nous présentes notre prochaine warrior.
Yes, c'est Yuna. Alors Yuna, elle est instite depuis 11 ans et elle est très engagée. Le féminisme, c'est vraiment un truc super important pour elle. Donc vraiment, au quotidien, dans sa classe, partout, elle essaye de faire passer les idées féministes. Et du coup, quand elle a découvert que l'un de ses collègues était un gros misogyne, elle n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça.
Quand je suis arrivée dans l'école dans laquelle je bosse encore, il y avait ce collègue. J'ai très rapidement vu à qui j'avais affaire. Un mec qui prenait beaucoup, beaucoup de place. volume sonore insupportable, prise de parole incessante et surtout remarques sexistes et sexuelles à tout bout de champ. Donc le type, sous couvert d'humour, il sortait des horreurs les plus misogynes les unes que les autres. Et malheureusement, les autres collègues qui n'y voyaient absolument pas le mal, alimentaient son comportement. Très rapidement, je me suis sentie mal à l'aise et j'allais franchement à reculons en salle des maîtres. Lieu où on passe quand même pas mal de temps, et notamment la pause déjeuner. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il était hors de question que je me sente mal à cause de lui sur mon lieu de travail, travail que j'adore, et surtout qu'il était hors de question que je subisse encore le sexisme. Du coup, j'ai décidé de me retrousser les manches et d'aller au combat. Donc tous les jours, je faisais de la pédagogie et je le reprenais en lui expliquant en quoi ses remarques étaient sexistes, en quoi c'était déplacé, et qu'à partir du moment où je lui avais signalé que moi ça me dérangeait, qu'il fallait qu'il arrête. Malheureusement, ça n'a pas changé grand-chose. Mais un midi, comme tous les autres midis, où il enchaînait ses blagues sexistes et sexuelles, j'ai décidé de l'ignorer. Sauf que j'étais assise en face de lui. Et ça lui a pas vraiment plu que je fasse comme s'il n'existait pas. Donc du coup, il s'adresse à moi et il me sort « Bah alors, qu'est-ce que t'as ? Tu ris pas ? T'as tes règles ?» Et là, je sais pas d'où ça m'est sorti, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je lui ai sorti « Bah ouais, d'ailleurs faut que j'aille vider ma cup, tu veux que j'en pisse ton verre ?» Et je me suis levée. Là, ça a jeté un certain froid, tout d'un coup plus personne parlait, j'entendais certains collègues ou certaines collègues pouffer, et lui était un peu décontenancé, il savait pas trop comment réagir. Mais je me suis pas arrêtée là. Je suis allée dans ma classe, j'ai versé de l'encre rouge dans un verre d'eau, je me suis plantée devant lui, je lui ai tendu le verre et je lui ai dit « à la tienne ». Après ça, il faisait beaucoup moins le malin. Alors, lui a pas vraiment cessé ses remarques. Il faisait beaucoup plus attention à comment il s'adressait à moi et comment il se comportait envers moi. Mais ce qui a vraiment changé, en fait, ce sont les collègues autour de lui. Parce qu'au fur et à mesure, à chaque fois que je le reprenais, que j'exprimais le fait que son comportement, ça allait pas, les collègues, eux, ont aussi changé leur positionnement par rapport à son comportement. Et ils ont cessé de cautionner son attitude. Et du coup, ce collègue-là, il se sentait beaucoup moins autorisé à dire ce qu'il disait. Et au bout d'un moment, il a arrêté. Il est parti. Depuis, ça va beaucoup mieux. On est beaucoup plus serein et sereine dans cette salle des maîtres. Donc les warriors, surtout, lâchez rien. Au bout du compte, ça paye.
Wow. Toujours avoir un peu d'encre rouge sur soi.
C'est ça. Mais c'est un vrai one woman show qu'elle a fait quand même.
Je sais pas comment elle a fait. Enfin, moi j'adore, je trouve qu'elle est trop badass et j'aimerais vraiment faire ça dans ma vie. Genre tous les jours avoir une bouteille de sang à portée de main.
Malheureusement, l'occasion risque de se présenter.
Oui, c'est ça. Je vous conseille d'avoir toute une bouteille de sang ou d'encre rouge avec vous, comme ça, ça peut toujours servir. Hein. Donc maxi cœur infini sur toi, Yuna.
Ouais.
Et aussi, c'est intéressant de voir qu'elle a essayé la pédagogie pendant longtemps, qu'au final, ça a pas forcément payé. Et qu'une bonne petite humiliation, en mode humour, bien sûr, le but, c'est pas de détruire la personne, mais ça lui a fait peut-être un électrochoc, quoi.
Ouais. Puis je trouve intéressant le coup aussi de faire bouger du coup les rieurs, quoi. Mm-hmm, en fait, sur ces sujets-là, il y a pas 18 000 nuances, quoi. Ou t'es pour ou t'es contre, en fait. Et si tu n'interviens pas dans ces cas-là, si tu ne fais rien, si tu ne dis rien, si tu ris, tu cautionnes, en fait. Ça aussi, c'est un bien important de faire changer le regard des autres. Il y a celui qui raconte les blagues, mais il y a ceux qui ne disent rien, voire ceux qui en rigolent. Et ça, c'est un vrai problème aussi.
Et qui, du coup, permettent à la personne qui fait ses blagues de se sentir autorisée, en fait. Ouais, puisque personne ne dit rien, c'est que...
Ça le légitime. Donc, très important aussi de sortir de cette catégorie-là pour basculer dans l'autre catégorie. Celle des gentils.
Celle des gens bien. Celle des warriors.
Voilà, c'est ça.
Notre prochaine warrior, vous la connaissez peut-être déjà. Elle cartonne en ce moment. Elle a même son propre épisode dans le programme Netflix Humoriste du Monde. Donc, il y a 4 Français. Et Tania Dutel en fait partie, avec Shirley Soignon notamment. Elle a un humour corrosif. Elle parle aussi bien de harcèlement de rue que de viol, que de paix, que de célibat. Et en ce moment, elle décolle. Donc, ça lui vaut des réflexions assez désagréables. Mais c'est sans compter sur son talent pour retourner la situation.
Dans un comedy club aussi, il y a un gars, il me fait tout le temps des blagues. Parce qu'on n'est pas beaucoup de meufs. Donc dès qu'il y en a une, parce que je sais qu'il n'y a pas qu'à moi, il en fait à tout le monde. Il va me dire des fois « Ah tiens, j'ai entendu que t'as couché avec lui. »
Et évidemment, j'ai couché avec personne du milieu. Donc je dis, bah, t'es pas au courant. En fait, j'ai pas juste couché avec lui. Je suis enceinte, là. On attend un enfant, en fait. Ou des fois, je fais vraiment l'inverse, vraiment pour le provoquer. Je sais pas s'il va me dire, ah, tu l'as sucé. Je dis, mais je lui ai pas sucé la teub, je lui ai juste sucé les boules, en fait. Il préfère quand je lui fais ça. Donc, j'ai toujours un peu à l'encontre. Ça le choque un peu. Et moi, ça me fait marrer. Attends, il y a quoi d'autre? Ah oui, quand j'ai signé avec Verino, qui est donc mon producteur, et il faut savoir que tout le monde parle de lui, mais en fait, c'est aussi sa femme qui me produit. Je suis produite par Verino et sa femme. Et il y en a plein dans le milieu qui m'ont demandé si je l'avais sucé pour qu'il me signe. Et donc, je répondais, oui, j'ai couché avec lui, puis bah, avec sa femme en même temps. Sinon, j'allais pas avoir le contrat. J'ai pas eu le choix, quoi. Bah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que je fais pas mal de trucs dans la provoque pour aller un peu à l'encontre de ce que les gens disent. Et puis, ce que je fais sur scène, il y en a qui disent que c'est trash. Moi, je trouve pas, mais bon, ça vient de la bouche d'une fille, donc c'est trash. Et j'ai écrit dernièrement une blague où je dis que je rêve de sucer Leonardo DiCaprio. Chacun son rêve. Moi, clairement, je le dis, c'est un de mes rêves. Voilà, je n'ai pas honte de le dire. Et il y a des gens qui sont un peu choqués d'entendre ça, parce que c'est pas beau dans la bouche d'une fille. Ça m'a tellement énervée d'entendre ça, qu'avant, j'avais que la blague sur Leonardo DiCaprio. Et maintenant, je l'ai rallongée, cette blague. Et donc, je dis, il y a des gens qui sont choqués d'entendre ça, parce que c'est pas beau dans la bouche d'une fille. Et moi, je trouve que c'est faux. Je trouve que les pénis sont très beaux dans ma bouche. Ça accessoirise mon visage. Il y en a, c'est les piercings, moi, c'est les bites.
J'adore cette réplique.
Ah putain, elle est trop forte.
J'aurais tellement pas pensé, mais le talent, quoi.
Ça accessoirise mon visage.
C'est parfait.
Moi, c'est les piercings, moi, c'est les bites. Où est le problème? Moi, je trouve ça quand même ahurissant. Voilà, le nombre de fois, visiblement, c'est hyper récurrent. Ouais, quand on demande qui elle a sucé ou t'as sucé un tel. En gros, on peut pas réussir juste parce qu'on a du talent, quoi. Mm-hmm. Forcément, il y a un moment, on a fait une faveur à quelqu'un pour y arriver. Puisqu'en plus, forcément, ce sont des hommes qui sont au poste, qui décident de te programmer ou non. Donc, ouais, c'est hyper problématique. Et ce qu'elle raconte aussi dans son témoignage, c'est qu'elle entend souvent que les femmes seraient moins drôles que les hommes. Et ça lui est même arrivé d'entendre ça de la part de gens dans le public alors qu'elle entrait sur scène. Donc, paye ton trac au démarrage. Et en fait, elle s'est donnée à fond. Et à la sortie, ces mêmes personnes sont venues lui dire que c'était elle qui les avait fait le plus rire. Je pense que là, on est sur une sacrée victoire.
Ah, bah, c'est clair.
Et du coup, je résiste pas, parce que vraiment, c'est charmé ce qu'elle fait, à vous passer un petit extrait de son spectacle.
Messieurs, vous êtes contents quand vous recevez une photo de nous nus? Ouais. Eh ben, pas nous. Oh. Voilà. C'est pas une belle photo. À la base, quand tu prends une photo, c'est pour avoir un souvenir, et ça, on veut pas s'en rappeler. Moi, jamais, je me suis dit, mais quel beau pénis. J'ai très envie de l'encadrer. La dernière photo que j'ai reçue, je lui ai dit, mais pourquoi tu as mis ta main à côté? Elle est là en guise d'échelle. Messieurs, sachez que cette photo sert uniquement à divertir nos amis.
Voilà, donc t'as
merveilleux.
Moi, je dirais pas qu'elle est trash, parce qu'en fait, elle parle de la réalité vraie, quoi.
Oui.
Enfin, il y a là un sketch sur le fait de quand tu te fais épiler le sillon interfessier, il est à hurler de rire.
Il est énorme.
Parce que n'importe qui s'est fait épiler cette zone-là s'y reconnaîtra. Donc, elle parle juste de vérité, en fait, que dont personne parle, en fait, parce que c'est jugé trash, justement, et que dans la bouche d'une fille, ça serait plus sale. Donc moi, je trouve génial, parce qu'elle décomplexe, elle nous décomplexe complètement, elle s'autorise tout, en fait. Et c'est vraiment à hurler de rire. Je vous recommande d'aller la voir. Elle est du jeudi au samedi au point virgule. Elle est aussi en tournée, donc on vous met dans la description de l'épisode tous les liens pour la retrouver.
Mais moi, j'espère ça me fait
qu'elle
pas...
va passer à Marseille.
Ben, je crois qu'elle y est cette semaine.
Ah
putain, mais... ouais.
Ah là là,
c'est
complet.
Places. Elle m'a dit que c'était
mince,
complet.
Mince, mais non, c'est pas vrai.
Victime de son succès.
Voilà. Mais ce qu'elle raconte, moi, ça me fait penser à un article que j'avais lu sur site Mademoiselle d'une journaliste qui raconte une expérience qu'elle a eue, en fait, où elle était à un bar avec une copine et où il y a un mec qui vient les saouler, en fait, et elle répond répond sur le ton de l'humour. Alors, je sais plus exactement ce qu'elle lui dit. Et le mec lui dit non, mais de toute façon, c'est mort. Moi, une femme qui a de l'humour, une femme qui fait rire, c'est pas sexy, quoi.
Waouh !
Est-ce que tu captes l'ineptie du raisonnement ?
Non, mais c'est.
Mais en fait, il y a énormément de préjugés là-dessus sur une femme qui rit, c'est vulgaire, ou voilà, et c'est. Et l'humour, en fait, reste quand même du domaine, ouais. Du domaine des hommes. Et voilà, en préparant l'émission, je suis tombée aussi sur cette anecdote. Je sais pas si vous voyez Margaret Atwood, qui est une écrivaine canadienne qui a écrit La Servante écarlate.
Ah oui, d'accord.
Voilà, dont
oui.
On a tiré la série. The Handmaid's Tale. Donc, elle a demandé d'abord à des étudiantes que des femmes en quoi elles se sentaient menacées par les hommes. Donc, les réponses ont été assez classiques du style le viol, la violence, les agressions, tout ça. Et elle a posé exactement la même question à un groupe d'étudiants, mm-hmm. des mecs, qui lui ont répondu que ils pouvaient se sentir menacés par des femmes parce qu'elles se moquaient de.
Wow.
Voilà, donc l'humour des femmes en fait menace ces pauvres hommes en fait, mais on revient à ce que je disais au début.
C'est tellement plus flippant que le viol.
Mais je reviens à ce que je disais au début, c'est que finalement l'humour globalement est quand même accepté comme une façon en fait finalement de dominer les autres en fait.
Ouais, ouais, complètement. Ouais.
Oui, ça fait que confirmer effectivement le raisonnement de base.
Voilà, c'est ça.
Bref, on le redit, l'humour, c'est très sérieux, c'est Nat. Ne pas laisser entre les mains de n'importe qui.
C'est ça.
Du coup, je voulais faire un petit tour de table aussi, savoir vous, les humoristes femmes, histoire qu'on fasse un peu de promo aussi à nos sœurs comiques. C'est qui votre humoriste femme préférée, toi, Elsa ?
En ce moment, enfin ces derniers, il y en a plein, hein, mais une qui m'a vraiment marquée, c'est Ali Wong, qui est donc une humoriste américaine d'origine asiatique. Et en fait, elle a deux spectacles sur Netflix. Moi, c'est comme ça que je l'ai découverte. Elle a récemment aussi sorti un film qui s'appelle Always Be My Baby. C'est une comédie romantique qu'elle a coécrit et coproduit. Hashtag Boss Beach. Il se trouve qu'elle a eu deux grossesses assez rapprochées et qu'en fait, du coup, elle est très associée à la maternité, à la grossesse, etc. Et elle a fait énormément de blagues là-dessus. Où en fait, elle désacralise totalement l'instinct maternel, l'accouchement, etc. Bref, je vous conseille vraiment de regarder ces spectacles, si ce n'est pas déjà fait. Et là, en fait, je voulais passer un extrait d'une interview qu'elle a donnée dans le Daily Show de Trevor Noah. Où en fait elle raconte une interaction qu'elle a eue avec un humoriste blanc lorsqu'elle était enceinte de son deuxième enfant.
But he like came up to me while I was pregnant the second time and he touched my belly with his like fat sweaty hand, which is so gross to begin with. It's like it's like why don't you finger me while you're at it? This is so not okay. Like just because I'm pregnant doesn't mean it's okay for you to touch my belly. And he was like, oh, so this is your shtick. This is like your thing now, right? And I'm like, I was like, getting pregnant is not rainbow suspenders. It's not a shtick. And then he was like, you're so lucky, Allie, because you get all of this attention because you're both a female and a minority. And I was like, yeah, because, you know, historically, that's always been the winning combo for recognition and success.
Donc, pour résumer, en gros, donc c'est un humoriste apparemment qui n'a pas beaucoup de succès aux États-Unis, qui est venu vers elle, qui a commencé à toucher son ventre. Donc elle dit, alors déjà c'est dégueulasse, tu veux pas me mettre des doigts tant que t'y es, quoi. Enfin, à quel moment, sous prétexte que je suis enceinte, t'as le droit de me toucher, de toucher mon ventre? Et il lui dit, non mais toi, t'as trop de la chance parce que maintenant, enfin, t'es une femme et en plus t'es une minorité, donc voilà, t'as toute cette attention autour de toi. Et elle lui a répondu, mais bien sûr, parce que historiquement, ça a toujours été le combo gagnant d'être une femme de minorité. Et je trouvais que c'était vraiment une super punchline et que le mec, il avait dû quand même se sentir assez con. Parce que, enfin...
Et lui, va rester dans l'anonymat pendant ce temps.
Ah bah voilà,
exactement,
tout à fait.
Bien mérité.
Merci, au revoir.
Marga, de qui tu as envie de nous parler ?
Alors moi, comme vous savez, j'ai deux parents profs, donc forcément, j'écoute beaucoup France Inter. Donc mes références de comics sont quand même beaucoup sur cette radio du service public, depuis ma plus tendre enfance. Donc c'est France Inter, pour vous rappeler, c'est la radio sur laquelle sévit, entre autres, cette gauchiste de Nicole Ferrioni, que j'aime beaucoup, mais aussi Marina Rollman. Alors je vous propose d'écouter un petit extrait d'une de ses dernières chroniques sur le lien entre sexe et sentiment.
Sentiment, sexualité, femme. C'est posé comme une espèce d'évidence, comme ça. Alors oui, il y a une sociabilisation des femmes à penser qu'il faut aimer pour coucher ou que coucher déclenche l'amour, mais il n'y a pas d'évidence matérielle. Il n'y a pas d'équation inéluctable. Pénétration, intimité, sentiment, loin de là même. Typiquement, moi j'ai pas mal de copains qui ont des pénis, qui aiment bien... Oui, j'en ai. Qui aiment bien avoir des rapports avec d'autres gens qui ont des pénis. Oui. Bon, je ne veux spoiler personne, mais concrètement, ils ne font pas un combat d'épée. À la fin, il y a souvent quelqu'un dans quelqu'un. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on se rappelle le lendemain. Donc, c'est que manifestement, il n'y a pas un interrupteur à sentiments dans toutes les cavités qui font que si qui que ce soit rentre, boum, ça y est, elle l'aime, c'est fini, il n'y a rien à faire. Bon, oui. On peut essayer de rééteindre le truc en y allant avec un chausse-pied, mais ça ne marche pas. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas quelqu'un en toi égale sentiment. Sinon, ça voudrait dire que tous les ORL et tous les proctologues du monde passeraient leur vie à recevoir des lettres d'amour. Je sais que pour vous non plus, docteur Strauss, ce n'était pas qu'une coloscopie. Partons sur la côte adriatique, cultiver des fleurs de courgettes.
Énorme.
J'adore. Marina Rollman me fait beaucoup de bien.
Ouais, non, franchement, elle est super pertinente et elle arrive à faire vraiment de la pédagogie en faisant rire les gens, quoi. Enfin, et j'ai l'impression que c'est rarement gratuit, elle a toujours un message derrière, donc c'est cool.
Eh bien, moi, à mon tour, alors j'ai choisi un sketch que j'avais vu il y a 2 ans, donc c'est en anglais, je vous ferai la approximative ensuite. C'est Sophie Hagen qui fait un sketch sur le fait d'être féministe. Ça m'a fait hurler de rire et je recommande à toute féministe qui parle un tout petit peu anglais d'aller l'écouter.
I understand why you'd be an angry feminist. Like, it makes sense, because if you've been a feminist for more than, like, 3 months, you would have repeated the same sentence over and over again. Feminism isn't about hating men. Feminism is not man-hating. Just because you're a feminist, it doesn't mean you hate men. You don't have to hate men to become a feminist. Feminism don't hate men. You don't have to hate men to be a feminist. Feminism is not about hating men. And you've said it so many times, and they still don't listen. So now you... You just kind of... I mean, just a little bit. You just hate them a little bit. It's really hard not to. Have you seen them? Ugh, it's so hard not to. And I know some of you are like, well, not all men. And of course, it's all men. Literally every single one of them. Hate them, hate them, hate them. Someone was like, what about your dad? Especially my dad.
Je suis complètement fan. Le sketch est beaucoup plus long. Vraiment, je vous invite à le voir. Je vous fais une traduction très rapide. En gros, elle dit, bah, moi, je comprends pourquoi on devient une féministe énervée. Parce qu'en gros, si t'es féministe depuis genre plus de 3 mois, tu as probablement répété la même phrase encore et encore. Donc, le féminisme, ce n'est pas la haine des hommes. Ce n'est pas parce que tu es féministe que tu es les hommes. Tu n'as pas à détester les hommes pour devenir féministe. Le féminisme ne déteste pas les hommes. Et vous l'avez tellement dit, tellement de fois. Et ils n'écoutent toujours pas. Du coup, maintenant, tu les détestes un peu. Mais juste un peu, tu les as vus, c'est tellement dur de ne pas les détester. Et bien sûr, certains d'entre vous diront pas tous les hommes. Et bien sûr, c'est tous les hommes, littéralement chacun d'entre eux. Et qui va me demander, ton père alors, spécialement, particulièrement mon père. Voilà, je le fais, elle le fait évidemment beaucoup mieux que moi.
Ah non, non, mais tu danses très bien.
Je crois que je le connais par cœur maintenant en anglais, tellement je suis fan de ce sketch.
Mais c'est vrai que c'est tellement ça, quoi. Des fois, tu dis, mais en fait, c'est... oui, bah, on vous déteste parce qu'arrêtez, quoi. Genre.
Ah ouais.
Et là, même les mecs qui sont les plus déconstruits et tout ce que tu veux, quand tu leur dis que t'es féministe, l'une des premières phrases qu'ils te disent, c'est
« Moi,
ouais, mais quand même, il y en a, elles sont un peu extrêmes. »
Ah oui, aussi. Ouais.
Et c'est vraiment la première phrase. Enfin, à chaque fois, et même des mecs politisés qui se disent eux-mêmes féministes et tout, et t'es là, mais... Sérieusement, mais t'as cru que c'était original de dire ça en fait? Enfin,
bah là, elle raconte justement une interview qu'elle avait avec un journaliste danois, je crois, et qui lui disait alors, en gros, c'est quoi le féminisme? Et elle, prise au dépourvu, elle a un peu sorti des trucs classiques du genre, bah, les hommes n'ont pas le droit de demander à une femme de sourire, les hommes n'ont pas le droit de claquer les fesses des femmes. Et le mec dit, mais alors, du coup, dans ce genre de société, les hommes n'auront plus rien le droit de dire, on sera dans une société dans laquelle les hommes ne parleront plus. Et elle répond, that's the dream!
Trop bien! Mais oui, mais voilà!
Donc, c'est de l'humour misandre, ce qui va nous permettre de faire la transition avec notre rubrique suivante.
Le self-care.
Qu'est-ce que la misandrie déjà? Je pense que
alors,
je sais pas si on l'a déjà.
La misandrie, c'est ça, hein, c'est le fait de détester les hommes. En fait, c'est l'inverse de misogynie, tout simplement. Voilà. Et donc, bah, par définition, dans une société patriarcale, ça ne peut que être en réaction. À la misogynie ambiante qu'on subit toute la journée. C'est-à-dire, il n'y a pas de société misandre, il n'y a pas de système misandre. Vous n'allez pas risquer de vous faire violer autant que nous, on risque de se faire violer, etc., etc., etc.
Et à rapprocher du racisme anti-blanc.
Exactement, c'est exactement la même chose.
La seule forme visible de misandrie, c'est l'humour.
Voilà, c'est tout à fait. Et du coup, bah, on estime que ça va, on peut se lâcher, parce que après des siècles d'humour misogyne, ça va pas vous tuer d'entendre 2-3 blagues misandres. Hein. Du coup, on vous a demandé sur les réseaux sociaux de nous envoyer vos meilleures blagues anti-hommes, et vous nous avez régalé, donc on va vous en lire 2-3 que vous nous avez envoyées. Alors, la première, comment un homme cis dévisse une ampoule ? Suspense. Il la tient dans sa main et attend que le monde tourne autour de lui.
Évidemment.
Ça, j'adore. Pourquoi ce sont les femmes qui sont enceintes et pas les hommes? La nature a vu le désastre que c'est quand un homme a un rhume et s'est dit que l'espèce humaine était condamnée s'il devait porter les enfants.
Ça, j'aime ça bien serait aussi. Trop dur pour eux. Mais c'est vrai, ils ne survivraient pas. Hein.
Non.
Bah, je crois que c'est prouvé scientifiquement hein, qu'ils mourraient d'une crise cardiaque pendant un accouchement parce qu'ils ne sont pas faits pour, quoi, clairement.
Laissez-nous faire, les gars.
Oui, voilà, on va s'en charger. Pourquoi les hommes cis donnent-ils un nom à leur pénis?
Parce qu'il l'aime beaucoup.
Ah, oui,
parce
aussi.
Qu'il lui parle.
Alors, la réponse, c'est vous laisseriez un inconnu prendre les décisions à votre place? ça, j'aime bien. Et alors, l'autre aussi, c'est là, j'adore. Un mec hétéro cis va à Emmaüs. Qu'est-ce qu'il donne? Son avis.
Il ne peut pas s'empêcher.
Et la dernière, comment on fait pour tuer un homme blanc cisgenre hétérosexuel? On vise 30 cm au-dessus de sa tête, en plein dans son complexe de supériorité.
Voilà.
Merci, franchement, merci les filles de nous avoir envoyé tout ça. Je vous conseille aussi le compte Instagram Tu M'aimes, c'est M-E-M-E-S-S, qui partage des mèmes féministes. Et sinon, effectivement, il y a aussi les punchlinettes dont tu parlais. Qui, voilà, si vous êtes en manque de blagues misandres ou de punchlines.
Bien, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a déclenché quelques sourires, voire fou rires chez toi. On remercie donc nos warriors Teren, Yuna, Tania, Tani, Lily et Marine. Merci beaucoup de faire porter vos voix et de faire travailler nos zygomatiques. Dans le prochain épisode, on parlera de warriors et de bricolage. Alors qu'on soit professionnel ou amatrice, amateur, on le sait, dès qu'on s'approche d'un pneu ou d'un truc électrique, ça crée un court-circuit dans pas mal de cerveaux. Alors si t'as humilié le type qui pensait que tu ne savais rien faire de tes 10 doigts, si t'as trouvé ta place dans un métier dit d'homme, genre mécanique au bâtiment, si t'as prouvé que t'étais meilleur qu'un mec pour démonter et remonter tes pneus, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Et tu peux d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un audio directement à warriors@yespodcast.fr. Tu peux nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, @yespodcast. Tu peux aussi nous écouter et partager nos épisodes depuis iTunes, Spotify, Podcast Addict et toute application de podcast. Et bien sûr, si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser 5 étoiles sur iTunes et contribuer à nous rendre plus visibles. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, n'oublie pas, tu mets ce que tu veux dans ta bouche et ça te va à ravir. Tu nous fais rire, tu nous inspires, tu nous tires vers le haut. Bref, meuf, t'es une warrior.
Yes.